Tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Laquita avec vous, Joseph Morissin assure la réalisation et la production de cette édition. Ce soir, carême et ramadan, deux chemins spirituels en convergence. Le carême catholique et le ramadan musulman débutent cette année dans des contextes particuliers, chacun représentant une période de purification et de renouveau spirituel. Alors que les catholiques se préparent à 40 jours de pénitence, les musulmans ont entamé un mois de jeûne et de solidarité. Mais comment ces deux grandes traditions religieuses se comparent-elles? Et quels sont les appels actuels à la prière, à la réflexion et à la solidarité? Nous sommes en ligne avec le père Grégor Prichotko, originaire du Kazakhstan. Il est docteur en droit canonique de l'Université Paris-Sud-Saclay et rattaché au laboratoire Droit et Société religieuse. Bonsoir, mon père.
Bonsoir, Eric. Bonsoir à tous.
Merci de votre disponibilité, votre contribution dans le dialogue des religions. Que symbolise le carême pour vous en tant que chrétien? Il faut le rappeler, le carême qui commence sans le pape, et comment le vivre cette année?
Donc, cette année est d'une importance particulière parce que nous sommes entrés en année jubilaire, donc 2025, où il y a plusieurs activités spirituelles qui vraiment sont préparées et mises en place pour les fidèles, notamment les pèlerinages à Rome, et etc. Mais le carême, voilà où nous entrons, commence aujourd'hui et c'est un temps de grâce, le temps de préparation qui précède la fête de Pâques, la fête principale fête chrétienne. Et cette année, le pape nous donne déjà quelques indications pour pouvoir bien le vivre. Il nous a donné 15 conseils pour bien vivre ce carême, et même dans les petites choses quotidiennes, pour pouvoir rendre notre entourage, rendre notre monde meilleur.
Le ramadan représentait-il un moment de renouveau spirituel similaire au carême?
Je crois que il y a beaucoup de choses qui sont similaires, parce qu'il y a le jeûne, la prière, le partage, qui sont le fondement du carême, de cette démarche spirituelle. Ramadan également contient les mêmes éléments, le désir de purification, il y a le jeûne, il y a le partage, il y a la solidarité qui sont exprimées aussi à travers différentes manifestations, par exemple l'iftar, la rupture de jeûne. C'est un moment de partage très convivial chez les musulmans. Chez les chrétiens, donc voilà, c'est les fondements même de cette démarche, le jeûne, donc l'obtention de certains éléments ou des choses secondaires pour se concentrer sur l'essentiel. Ensuite, la prière et l'aumône, donc le partage.
Quels sont les objectifs spirituels à atteindre pendant cette période?
Les objectifs spirituels, je dirais que pendant ces 40 jours de préparation pour la fête de Pâques, la plus grande fête des chrétiens, sont tout d'abord de pouvoir se détacher des choses secondaires, de remettre en quelque sorte l'échelle des valeurs dans notre existence, de se ressourcer en ayant un lien privilégié avec Dieu, notamment dans la démarche pénitentielle, quand nous demandons à Dieu de nous libérer de tout ce qui peut en quelque sorte assombrir sa présence dans notre cœur, et aussi bien évidemment dans les rapports avec nos frères et sœurs, dans les rapports avec les personnes qui nous entourent, pour que cette force que nous puisons dans notre rapport avec Dieu puisse réjaillir aussi sur les rapports avec notre prochain. Donc donner de l'amour, donner de l'espérance, puisque cette année nous sommes appelés par le pape d'être des témoins de l'espérance pour ce monde qui en a vraiment besoin en ce moment.
En quoi la prière et le jeûne jouent-ils un rôle central dans le carême et dans le ramadan ?
Donc, concernant la religion chrétienne, l'obtention de certains éléments, ce n'est pas tout simplement faire du régime, bien évidemment. Par exemple, il nous a demandé, le droit canonique nous demande, il y a 2 jours de jeûne strict, c'est le mercredi des cendres et le vendredi saint. Et il y a ensuite tous les vendredis du carême, donc où il nous est demandé de ne pas manger de la viande, par exemple. Et si on regarde historiquement, ce n'est pas uniquement privation pour faire de la privation, parce que la viande, c'était un produit qui n'était pas accessible largement, donc quelque chose qui est très très coûteux. Et par conséquent, les gens réduisaient sa consommation pour pouvoir, justement, avec les fonds qui provenaient de ces économies, de pouvoir subvenir aux besoins les plus pauvres. Et c'est un sens de partage également. D'autre part, quand nous faisons l'obtention des choses peut-être qui animent notre quotidien et auxquelles nous sommes habitués, par exemple la télévision ou les réseaux sociaux qui quelquefois prennent trop de place, c'est un moyen de pouvoir en quelque sorte nous concentrer sur l'essentiel, nous concentrer notamment sur la prière et sur les besoins réels de ce monde, de ne pas combler notre quotidien uniquement par les choses d'une certaine, comment dirais-je, qui ne sert pas à grand-chose quand on passe des heures sur les réseaux sociaux ou on perd notre temps à regarder les séries sans fin. Voilà, donc il y a tout cela qui forme un ensemble. Dans le ramadan, je crois qu'on retrouve à peu près les mêmes valeurs, parce que ne pas manger toute la journée, c'est une sorte de manifestation de la foi du croyant, pour montrer que voilà, par la force de Dieu, on peut faire des choses qui normalement dans le temps ordinaire peut-être semblent très compliquées. Je crois qu'il y a plusieurs choses qu'on peut retrouver dans ces pratiques religieuses qui sont similaires. Et encore une fois, le désir de purification, désir de ce partage, avec, de devenir un signe d'espérance, je crois que c'est commun aux deux religions.
Oui, vous êtes effectivement originaire d'un pays musulman. En tant que chrétien, comment percevez-vous l'importance du jeûne dans la purification de l'âme ?
En tant que chrétien, je dirais qu'il est vrai que le jeûne ne consiste pas tout simplement à ne pas manger ceci ou cela. Surtout que quelquefois, vraiment, ce qui était évident dans les temps très anciens, rappelons que cette préparation remonte, donc pour la fête de Pâques, remonte au 4e siècle. Et par conséquent, à l'époque, la chrétienté était répandue dans le bassin de la Méditerranée. Il y avait de la nourriture qui pouvait être très importante, très coûteuse, comme la viande, et la nourriture qui n'était pas très coûteuse, qui était très simple, c'était le poisson. Actuellement, dans la plupart des pays, par exemple en France, le poisson coûte beaucoup plus cher quelquefois que la viande. Et donc, ça serait vraiment une sorte d'hypocrisie de se braquer sur l'application des choses à la lettre, parce que, encore une fois, cette purification, ça contient tout l'ensemble de notre être. Ça veut dire que nous nous détournons de ce qui est secondaire, nous nous concentrons sur ce qui est essentiel. Quelle est ma relation à cette source de vie qui est Dieu ? Qu'est-ce que dans ma vie est d'une importance peut-être secondaire, et je peux peut-être m'en passer pour faire autre chose qui est beaucoup plus important, notamment faire attention à mon prochain, comme le pape le dit. D'ailleurs, cela se traduit par les gestes tout à fait simples. Accueillir le prochain avec sourire, saluer les personnes qu'on fréquente tous les jours, appeler les parents pour leur dire qu'on les aime. Donc, les gestes tout simples, mais qui rendent tout de suite la qualité de relation avec les autres sous le regard de Dieu, vraiment d'un autre niveau, d'un niveau spirituel. Donc, on peut, encore une fois, faire le jeûne, non pas simplement des produits alimentaires, mais aussi des choses secondaires qui encombrent notre existence, auxquelles nous sommes habitués, et puis qui peut-être ne sont pas tellement nécessaires pour nous.
Et quelle est la place de la solidarité pendant le carême, le ramadan, et pourquoi est-ce important?
La solidarité pendant le carême et pendant le ramadan tient une place vraiment très importante, parce que en ce qui concerne l'Église catholique, la pratique, c'est de faire toujours dans les paroisses, d'organiser une action de carême très concrète. Par exemple, aider une école dans un autre pays qui est en besoin, aider les réfugiés, accueillir les personnes accueillir les personnes qui sont sans abri et pouvoir les aider avec les moyens de bord, en faisant la banque alimentaire, en faisant rassembler les produits de première nécessité. Donc ça traduit cette démarche spirituelle d'une manière concrète. Encore une fois, pendant le ramadan ou pendant le carême, c'est vraiment la foi de la personne est traduite dans une démarche visible, concrète, en considérant l'autre comme frère ou sœur et en mettant en place cette solidarité qui unit l'humanité, qui traduit aussi la charité que Dieu a vers nous par cette charité par rapport à nos frères et sœurs.
Vous suivez le dialogue des religions, carême et ramadan, de chemin spirituel en convergence. C'est notre sujet de ce soir. Eric Manelakidza, toujours avec vous. Je suis également en ligne avec le père Grégor Prichotko. Nous allons observer une petite pause. Ne partez pas, le dialogue des religions revient dans un instant. Père Grégor, que diriez-vous à quelqu'un qui doute de la pertinence du jeûne dans un monde moderne?
Je dirais que c'est le conseil que je donnerais, c'est de tout simplement de regarder la vie des uns et des autres. Vous savez, c'est comme quand on regarde sur l'iPhone combien de temps a été consacré à ceci ou à cela, au réseau, ou peut-être aux réseaux sociaux ou à autre chose. Et nous voyons que notre vision tout à fait subjective sur notre existence, parce que nous pensons que nous savons mieux ce dont nous avons besoin, mais ce n'est pas vrai, parce qu'il faut un regard de l'extérieur pour établir un vrai équilibre qui puisse être propice à notre avancement personnel, à notre avancement spirituel, entre autres. C'est pour cela qu'il y a ces règles qui peuvent secouer en quelque sorte notre quotidien. Quand nous pouvons sortir de ce qu'on appelle actuellement la zone de confort, et nous mettre devant certaines vérités que peut-être nous ne pouvons pas recevoir d'une manière spontanée. Donc, quand nous essayons de jeûner dans le monde actuel, ça veut dire que par une certaine privation de quelque chose qui est banal et qui est essentiel, vraiment, nous éprouvons en quelque sorte notre propre volonté, nous voyons là où nous sommes peut-être faibles, où il y a des lacunes, où nous pouvons travailler encore davantage sur notre personnalité sous le regard de Dieu et regarder les autres avec les lunettes de l'Évangile, justement. Donc il y a tout un entraînement. C'est pour cela que quelquefois on appelle le carême comme un entraînement. Nous entraînons avant d'accueillir avec un cœur libre, parce que c'est un chemin de libération également, de certaines addictions, de certains attachements qui ne sont pas essentiels, voire peut-être qui nous empêchent à avancer, pour accueillir le Christ ressuscité dans la nuit de Pâques, dans toute la splendeur de sa résurrection.
Comment les croyants sont-ils appelés à agir en dehors de la prière et du jeûne pendant ces périodes ?
Je crois que Jésus lui-même nous donne déjà des bonnes recettes d'action, et parce que le jeûne, c'est quelque chose qui est personnel, donc déjà d'éviter l'hypocrisie. Voilà, Jésus, il nous dit que si tu veux vraiment accomplir ton jeûne, et ne fais pas la mine de fête, ne manifeste pas que voilà, tu es accablé par la multitude des décisions que tu as prises en tant qu'action de carême, mais au contraire, montrer aux autres le visage humain, montrer aux autres le visage de Dieu lui-même qui est un père pour tous. Et cela se traduit par les choses de la vie qu'il faut peut-être apprendre mieux que passer des heures avec des jeux vidéo ou devant la télé ou en occupant notre quotidien avec des choses qui sont vraiment très 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 secondaires pour notre existence. C'est cela qui est très important.
Le carême et le ramadan sont souvent vus comme des moments de sacrifice personnel. Comment cela devrait se traduire concrètement dans la vie quotidienne ?
Encore une fois, je crois que le sacrifice personnel, effectivement c'est un sacrifice personnel, doit avoir un sens, n'est-ce pas ? Parce que Dieu ne nous demande pas de sacrifier pour sacrifier, donc de ressentir en quelque sorte je ne sais pas, une sensation de faim par exemple, juste pour avoir faim en se privant de quelque chose, non. Donc ce sacrifice, il a un sens, et ce sens, c'est se tourner vers les autres. Donc il se traduit, ce sacrifice, c'est une foi agissante, comme disait Saint Vincent de Paul, la foi agissante qui est tournée vers l'autrui. Et c'est l'accomplissement, ou au moins essayer de tenter d'accomplir le double commandement d'amour, aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça veut dire vouloir le bien de notre prochain et vouloir le bien suprême de chacun, qui est le salut de l'âme.
Quels sont les enseignements les plus importants que vous aimeriez que les fidèles retiennent de ces deux périodes ?
Je dirais que l'enseignement, c'est le plus important, c'est l'intimité avec Dieu, c'est très important. Donc nous entrons comme le Christ lui-même est mené par l'Esprit Saint dans le désert pour vivre ce moment de préparation de son sacrifice à lui. Quand il va monter sur la croix, encore une fois, souffrir, non pas pour souffrir, mais pour sauver le monde, pour donner la vie, mourir pour donner la vie. Donc, d'essayer d'entrer dans cette intimité de Dieu, d'essayer de regarder, de mettre les lunettes de l'Évangile chaque fois quand nous regardons notre prochain. De se dire dans une situation qui peut être quelquefois conflictuelle ou encombrante, mais qu'est-ce que Jésus dirait ou ferait dans cette situation-là. Et cela va nous donner des petites clés comme ça pour pouvoir vraiment vivre bien ce temps de grâce, ce temps de purification, préparer notre cœur, notre âme à recevoir vraiment cette grâce venant de Dieu, du Christ ressuscité dans le christianisme ou donc dans l'islam, cette force de Dieu qui se traduit par le partage, par les actions concrètes.
Et comment ces périodes de jeûne peuvent-elles rapprocher les croyants de leur communauté respective ?
Un petit exemple de la ville où je vis actuellement, donc en France, en Brie-sous-Forêt. Nous entretenons de très bonnes relations avec l'imam de la communauté musulmane. Par exemple, des invitations, la communauté musulmane nous invite, notre paroisse, à participer à l'iftar, à venir donc à ce moment de partage de la rupture de jeûne qui se passe dans la simplicité, qui se passe dans la joie, qui nous donne l'occasion de se rencontrer, de pouvoir échanger sur ces expériences spirituelles, de pouvoir aussi mieux connaître les traditions chrétiennes et les traditions musulmanes, de pouvoir voir les points communs de ces démarches spirituelles qui parlent à tout être humain.
Et quel est votre message pour ceux qui pourraient éprouver des difficultés à observer ces pratiques cette année ?
Le premier message, c'est de ne jamais se décourager. Deuxième message, il faut peut-être choisir une chose concrète qui pouvait de ne pas se trouver 10 000 actions à la fois, et ensuite quand on voit bien avec les limites, on n'est pas capable de les accomplir. Peut-être de choisir une chose qui pouvait nous guider à travers ce carême. Peut-être mieux supporter la personne avec qui normalement nous sommes peut-être dans les relations un petit peu tendues. De saluer les personnes qui ne voulons pas dans la vie normale saluer parce qu'il y a une situation conflictuelle. Donc d'essayer de choisir vraiment une chose qui va nous guider tout au long du carême, et nous verrons, nous pourrons voir vraiment le progrès en demandant l'aide de Dieu pour pouvoir accomplir notre action.
Le contexte actuel, là je parle de la santé du pape, des crises mondiales, ainsi de suite, est-ce que ça a un impact sur le vécu de ces rituels cette année ?
Je crois que cela nous sort de... vraiment de nos habitudes, parce que nous voyons que l'avenir se présente d'une manière incertaine dans la crise politique mondiale, plus particulièrement pour l'Église catholique, dans le sens que le souverain pontife qui nous a lancé dans cette année jubilaire comme année de grâce, année de libération, année de où nous devons témoigner de l'espérance dans le monde, lui donner à ce monde de l'espérance, de devenir des vrais témoins de cette espérance. Donc je crois que cela doit motiver nos actions. Chez les chrétiens comme chez les musulmans, ces incertitudes politiques qui ébranlent l'humanité, ça nous donne... Ça doit devenir une vraie motivation de pouvoir vivre ces moments réservés à la spiritualité, réservés à la pratique de partage, d'une manière encore plus intense que d'habitude, pour que cela ne soit pas quelque chose d'automatique, mais vraiment conscient, comme une responsabilité qu'on prend pour transmettre l'espérance.
Le carême et le ramadan, bien que pratiqués dans des religions différentes, partagent des valeurs communes, la purification de l'âme et l'humilité et la solidarité envers les plus démunis. Ces périodes offrent aux croyants une chance de se rapprocher de Dieu tout en renforçant la communauté. Dans un monde de plus en plus divisé, ces rituels appellent l'importance de la foi, du partage et de la fraternité. Nous arrivons au terme de cette édition de Dialogue des religions. Eric Manilakiza était avec vous. Merci à vous, Père Grégor Prichotko. Je rappelle que vous êtes docteur en droit canonique de l'Université Paris-Sud-Saclay, rattaché au laboratoire. Merci au laboratoire Droit et Société Religieuse. Merci de votre contribution dans cette émission.
Merci Eric, merci beaucoup.
Merci à Joselle Morissin qui a assuré la réalisation et la production de cette édition. Merci également à vous, chers fidèles auditrices et auditeurs de VOA Afrique. Je vous souhaite une agréable soirée et une bonne période de carême et de ramadan.